Les hommes aux semelles de vent. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, les invasions tatares en Russie. Au début du XIIIe siècle, le célèbre Gengis Khan, à la tête de la très puissante Horde d'Or, lance ses guerriers nomades à l'attaque des principales villes russes. Moscou et Kiev, notamment, sont réduites en cendres et voient leur population massacrée ou vendue comme esclaves. La victoire des nomades sur les sédentaires est écrasante. Pour les Russes, s'ouvre alors une longue période de vassalité. Pendant 3 siècles, ils devront payer un tribut à ces sauvages venus des steppes qu'ils appellent tatars. Aujourd'hui encore, le joug tatar continue de hanter la mémoire russe. Alors, quand la Horde d'Or entamera son déclin, Moscou n'aura de cesse de prendre sa revanche sur l'histoire. Aux invasions tatares en Russie succéderont alors les invasions russes en territoire tatar, jusqu'à la mer Noire et la petite péninsule de Crimée, au sud de l'actuelle Ukraine. Jusqu'à ce jour, les tatars de Crimée résistent à l'expansionnisme russe, désormais incarné par Vladimir Poutine. Yaroslav Lebedinsky, historien, donne le coup d'envoi des invasions russes et tatares au cœur des champs sauvages des plaines ukrainiennes.
Les champs sauvages s'étendaient à perte de vue jusqu'à la mer. Dans ces hautes herbes, on chassait l'homme comme on chassait le loup. Armé jusqu'aux dents, le berger gardait son troupeau. Le banni s'y réfugiait. Le soldat s'y lançait en quête d'aventure, le pillard en quête de butin. Le cosaque y courait sus au tatar et le tatar sus au cosaque. Le vent soufflant par rafale faisait murmurer plaintivement les herbes desséchées qui semblaient se tordre et trembler de peur. Si un homme au loin venait à entendre des bruissements d'ailes et des croassements, s'il apercevait des oiseaux tournoyant sur place, il savait que là gisaient des cadavres sans sépulture.
Le nom de tatar a eu plusieurs sens au cours de l'histoire, et d'ailleurs il désigne encore aujourd'hui plusieurs populations distinctes. À l'origine, les tatars sont un peuple nomade des confins mongols, absorbé et en partie détruit par les Mongols. Ça, c'est le premier sens du terme. Le deuxième sens, qui apparaît en Occident au XIIIe siècle, au moment des conquêtes mongoles, c'est précisément mongol. Quand les Mongols envahissent l'Europe orientale, ils sont appelés tatars. On ne sait pas pourquoi. Il est possible qu'ils aient eu des éclaireurs tatars ou qu'il y ait une confusion avec les vrais tatars. En tout cas, on les appelle tatars. Et ensuite, à partir du XIVe siècle, ce nom de tatar désigne des populations mélangées, issues d'une minorité de conquérants mongols demeurés en Europe et d'une majorité de populations de langue turque appartenant à diverses vagues nomades précédentes, en particulier ces gens qu'on appelle les Koumans ou Polovts. Et c'est le sens actuel, puisque tatar, aujourd'hui, désigne une série de populations résidant en Russie, mais qui sont autant de peuples distincts. Donc on a principalement les tatars de Crimée et les tatars de la Volga, qui sont relativement proches, qui ont des langues proches, mais qui sont, par leur histoire et même par leur composition, des entités vraiment distinctes. L'image du tatar, en général, est négative parce que cette image a été peinte par leurs adversaires et par leurs victimes, en particulier par une historiographie slave, donc russe, ukrainienne, etc., et en partie aussi une historiographie occidentale qui se souvient des grandes invasions du XIIIe siècle et des luttes au siècle suivant entre les différents groupes tatars et les États slaves de la région.
L'année 1569 fut une année étrange, féconde en signes annonciateurs de désastres et de prodiges. Les chroniques racontent qu'une nuée de sauterelles, comme pour présager de nouvelles incursions tatares, s'abattit sur les champs sauvages, anéantissant le blé et l'herbe. Au cours de l'été, il y eut une éclipse de soleil. Une comète incendia le firmament. l'ordre de la nature semblait bouleversé. Plongés dans l'angoisse, tous attendaient des événements exceptionnels et gardaient les yeux fixés sur ces champs sauvages d'où, plus facilement qu'ailleurs, pouvait surgir le danger. Dans la ville d'Astrakhan, des croix de feu et des sépulcres parurent dans les airs. On faisait pénitence, on jeûnait, on prodiguait les aumônes. D'aucuns prédisaient une peste exterminatrice.
Au sein de l'ensemble des groupes qui ont porté ou qui portent encore ce nom de Tatars, les Tatars de Crimée occupent une place particulière. Ils ont créé un État beaucoup plus durable que d'autres groupes. Un État qui a duré en fait des années 1430 à 1783, donc qui a eu une continuité favorisée par la continuité dynastique. Puisque de 1430 à la fin du XVIIIe siècle, c'est la même dynastie, la dynastie Giray, qui a régné sur ce khanat de Crimée. Le terme de Crimée est d'ailleurs trompeur, puisqu'on imagine la petite péninsule au sud de l'Ukraine. Les Tatars de Crimée ont contrôlé toutes les steppes côtières du sud de l'Ukraine et le nord du Caucase. Donc ont eu un territoire extrêmement étendu par rapport aux autres unités tatares. Ce khanat tatar de Crimée a aussi été le berceau d'un peuple, qui est le peuple tatar de Crimée, qui s'est formé principalement dans la péninsule, à partir d'apports très différents et parfois très anciens. Et puis, il a occupé une position assez particulière entre l'Europe et l'Asie, puisque c'était un État européen, en lien notamment avec la Pologne, la Lituanie, la Moscovie, les grands États de la région. Mais c'était aussi, à partir de 1475, un État vassal de l'Empire ottoman, qui, tout en conservant une certaine autonomie, était soumis au sultan et donc appartenait à ce vaste ensemble ottoman qui avait transformé la mer Noire en lac turc. En réalité, ce n'est pas avant les années 1520 ou 1530 que le poids du suzerain ottoman s'est vraiment fait sentir. Et même après cela, les Tatars de Crimée ont conservé une très large autonomie. Le khanat de Crimée n'a été que le principal et le plus durable des États tatars formés lors de l'éclatement de la Horde d'Or, dans les premières décennies et jusqu'au milieu du XVe siècle. Au moins deux autres khanats indépendants sont apparus à ce moment-là, sur le cours de la Volga, celui de Kazan et celui d'Astrakhan. Et ces deux États ont eu une existence beaucoup plus brève, longue de moins d'un siècle, puisqu'ils ont été annexés par la Moscovie, respectivement en 1552 et en 1556. Ils n'avaient ni l'étendue, ni la force militaire et les ressources du khanat de Crimée. Et puis, ils étaient beaucoup plus proches d'une Moscovie devenue extrêmement vorace et qui entamait son expansion aux dépens de ses voisins. Son expansion, et je pense qu'on peut le dire, sa revanche historique. Puisque le souvenir des invasions mongoles et ensuite des conflits avec la Horde d'Or et les différents groupes tatars était bien sûr extrêmement vivace. Il faut savoir que la véritable fin du joug tatar n'est intervenue qu'en 1480, donc à la fin du XVe siècle. Et que donc, un demi-siècle plus tard, la Moscovie, devenue une puissance régionale importante, se met à conquérir à son tour les territoires tatars et à prendre sa revanche.
Habiter Astrakhan n'allait pas sans risque, et les colons russes installés tant bien que mal dans les parages étaient sans cesse à la merci des attaques tatares. Pourtant, ils tentaient de s'accrocher à cette terre, comme les plantes qui s'enracinent dans le sol, là où elles le peuvent, et qui, même arrachées, repoussent. Comme la terre était fertile, des villes fortes, des bourgades, des fermes isolées avaient fini par s'implanter. Bref, tout ce peuple installé sur les terres défrichées des confins était autant de chiens de garde destinés à décourager l'envahisseur. Bientôt, dans la clarté douteuse de la nuit, on distingue des silhouettes de cavaliers tatars dressés au sommet du tertre. On entend du bruit et des cris, comme si une grande foule était réunie sur la place du marché, comme si la foudre grondait. Les Russes se préparent à mourir. Des troupeaux de loups apparaissent dans la plaine où vont lutter les deux armées. Les renards glapissent, attendant le jour terrible qui les rassasiera de cadavres et de sang.
Cet état, ce khanat tatar de Crimée, est double. Il comprend, jusqu'à la fin de son existence, des populations nomades, principalement les tribus qu'on appelle les Nogaï, dans le sud de l'Ukraine et le sud de la Russie d'Europe. Il comprend aussi très vite des populations sédentarisées. Et on peut considérer que très vite, c'est-à-dire dès le XVIe siècle, les populations tatares de la péninsule de Crimée, par opposition à celles des steppes du sud de l'Ukraine, sont sédentaires et ont adopté un mode de vie qui est souvent un mode de vie agricole, puisque ce sont des gens qui cultivent, que ce soit les céréales, les légumes, la vigne, qui a une grande importance, toutes les productions qui étaient des productions traditionnelles de cette péninsule de Crimée, qui était peuplée, bien entendu, depuis la préhistoire et qui avait connu toutes sortes de cultures, souvent elles-mêmes sédentarisées après un stade nomade. Alors, le khanat de Crimée, indépendamment de cette sédentarisation partielle de sa population, n'a jamais cessé d'être un état guerrier et un état impliqué dans tous les conflits qui agitaient la région. Il s'est trouvé voisin successivement de la Lituanie, la grande Lituanie, celle qui s'étendait de la Baltique à la mer Noire, puis de la Pologne, là aussi la grande Pologne qui comprenait l'Ukraine, et enfin de la Moscovie et à partir du début du XVIIIe siècle de l'Empire de Russie, l'Empire créé par Pierre Ier. Et puis, de toute façon, pour les Tatars, la razzia chez l'ennemi sédentaire, la capture de bétail, la capture d'esclaves, était une sorte de sport quasiment inscrit dans les gènes, en tout cas inscrit dans une culture des steppes très ancienne.
Le grand prince de Moscou monte sur la colline. Sur les étendards resplendissent comme des soleils les images des saints. Les fanions semblent vivants. Les armures scintillent comme des eaux au souffle du vent. Les casques dorés flamboient comme l'aurore d'une belle journée. Le prince descend de cheval, invoque le seigneur, applique son oreille au sol, écoute longuement, se relève et, après un long silence, il dit à ses troupes: j'ai écouté la terre. Elle pleurait de deux façons. C'est à la fois un bon et un mauvais présage. Nous vaincrons les Tatars, mais beaucoup de chrétiens périront.
Les régions que les Tatars de Crimée occupent ou menacent ou contrôlent sont des régions agricoles potentiellement riches. Ce sont les régions de terre noire, notamment de l'Ukraine. Et ce sont des régions qui ont été toujours l'objet de la convoitise des populations sédentaires qui tentaient de descendre vers le sud, alors que les raids nomades, eux, montaient vers le nord. Et une grande partie de l'histoire de l'Ukraine au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, pendant ce que les historiens ukrainiens considèrent comme la période cosaque, c'est précisément la lutte entre ces différents éléments, la lutte entre une colonisation slave permanente et un contrôle nomade de ces régions. Et cette espèce de conflit permanent, ce front mouvant, ne disparaîtra qu'avec la mainmise russe sur ces régions à la fin du XVIIIe siècle. C'est à la fin du XVIIIe siècle, à l'issue d'une série de victoires sur l'Empire ottoman, que l'Empire russe parvient à contrôler les côtes de l'actuelle Ukraine et à annexer la Crimée elle-même en 1783.
Voici le grand jour arrivé. Les trompettes sonnent, les deux armées marchent l'une contre l'autre. La terre gémit, annonçant la terreur de l'Orient à l'Occident. On entend résonner les lames d'acier, les sabres trempés, et s'entrechoquer les lances et les boucliers. Les champs sont arrosés de sang. Les cris des combattants s'étendent jusqu'au désert d'outre-Volga, jusqu'aux portes de fer du Caucase, jusqu'à Rome, jusqu'au-delà de la mer tumultueuse. Les Tatars semblent triompher. Beaucoup de Russes ont succombé. Tout à coup, on aperçoit dans le ciel une miraculeuse apparition. Un nuage s'ouvre, des couronnes tombent sur la tête des guerriers russes. La lutte reprend, plus âpre que jamais. La fortune des armes se retourne. Les Tatars se mettent à fuir et s'inclinent comme des arbres au souffle du vent. Devlet Giray, le chef tatar, s'enfuit en invoquant son protecteur, Mahomet. Le grand prince russe, dit Ivan le Terrible, remercie ses vaillants soldats et se prépare à rentrer dans sa glorieuse ville de Moscou.
La mainmise russe sur la Crimée, donc à partir du traité de Kutchuk-Kainarji en 1774 et surtout à partir de l'annexion du Khanat en 1783, a eu des conséquences tragiques pour les Tatars de Crimée. D'abord, la Crimée, qui était une sorte de pays de cocagne pour les Russes, qui était aussi une place d'armes fantastique sur la mer Noire. Les Russes ont bâti tout de suite le port de Sébastopol, qui est encore aujourd'hui leur principal port militaire sur la mer Noire. La Crimée a été une terre de colonisation pour les Russes. Et parallèlement à cette immigration de Russes et aussi d'Ukrainiens dans la péninsule, a commencé une émigration de Tatars qui partaient la plupart du temps en Anatolie ou dans d'autres territoires contrôlés par l'Empire ottoman. En 1792, par exemple, 100 000 Tatars auraient quitté la Crimée. Et dans les années 1860, à nouveau, 140 000 Tatars, ce qui pour une population dont on n'a pas le chiffre exact, mais qui était quand même peu nombreuse, représentait des saignées démographiques régulières. Et à partir de la fin du XIXe siècle, la colonisation slave prend un caractère massif. Et au tournant du XIXe et du XXe siècle, les Tatars de Crimée sont devenus une minorité sur leur propre territoire. Et cette descente aux enfers, si l'on ose dire, des Tatars de Crimée va se poursuivre au XXe siècle. En 1936, ils ne sont plus que 23% de la population. Et en 1944, ils ont été intégralement déportés, ce qui était faisable dans les conditions d'un régime totalitaire qui avait un contrôle absolu de la population. Et je rappelle que dans le système soviétique, on était donc citoyen soviétique, mais on avait inscrit sur son passeport une nationalité ethnique. Donc il suffisait de regarder les papiers des gens pour savoir qui se considérait comme Tatars de Crimée. Et oui, ils ont été intégralement raflés et déportés en 1944, y compris les vétérans décorés de l'armée rouge, ceux qui revenaient du front, etc.
L'heure est venue pour les Tatars de venger leur dernière défaite. Le 7 février, après matine, ils donnent l'assaut. Ils pillent tout, brûlent tout. Ils livrent au feu des saintes églises et des monastères. Ils massacrent les moines, les vieilles religieuses, les popes, les aveugles, les boiteux, les infirmes. Leur butin est énorme. Ils font de nombreux prisonniers qu'ils emmènent nu-pieds, grelottant de froid, pour les vendre au marché des esclaves. Enchaînés, terrorisés, affamés, les prisonniers sont poussés à coups de fouet, comme du bétail. Les hordes tatares repartent comme elles sont venues, dévastant les territoires russes et envahissant peu à peu tout le pays. Les Tatars de Crimée menacent maintenant Moscou. Ils demandent la restitution de Kazan et d'Astrakhan. Tandis que les pourparlers s'enlisent, voici qu'au matin du 24 mai 1571, jour de l'Ascension, 100 000 Tatars mettent le feu aux maisons de bois des faubourgs de Moscou. Un vent violent attise le brasier. En quelques instants, un océan de flammes mugit au-dessus de la ville. Derrière ce rideau de fumée rougeoyante, les Tatars poursuivent les habitants et pillent les demeures éventrées. Fuyant devant l'incendie, les moscovites veulent chercher asile dans la citadelle du Kremlin, mais les portes ont été barricadées de l'intérieur par les gardes. Les cadavres s'entassent devant les entrées condamnées. En moins de 3 heures, l'immense cité de bois n'est plus qu'un amas de ruines fumantes et de cendres, un charnier pestilentiel. Seul le Kremlin, protégé par ses hautes murailles de pierre, a échappé au désastre. En haut du mont des moineaux, le Khan Devlet Giray contemple avec satisfaction ce paysage calciné où dansent des flamèches folles.
Il faut se garder d'une lecture manichéenne de l'histoire commune des Tatars et des Slaves, notamment des Russes, en termes de gentils et de méchants, de barbares et de civilisés. On voit que les invasions, les agressions ont été réciproques. En définitive, comme souvent, comme ça s'est passé en Asie centrale, comme ça s'est passé en Mongolie, c'est le sédentaire qui l'a emporté sur le nomade ou sur celui qui avait une tradition nomade pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons industrielles, etc. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en Crimée à peu près 12% de Tatars. Donc à partir de 1989-90, les Tatars ont pu commencer à rentrer en Crimée où personne ne les attendait, et où les places étaient prises. Et très vite, leur situation a été celle d'une minorité pauvre, prolétarisée, marginale, campant parfois dans des bidonvilles, et qui n'est pas parvenue, qui n'est toujours pas parvenue aujourd'hui à retrouver sa place en quelque sorte de peuple indigène, sa place de nationalité titulaire en Crimée.
Les Tatars commencent à piller la ville, mais en sont vite chassés par les flammes. Le Khan juge plus prudent de retourner en Crimée avec ses troupes. Mais quand ils se mettent en marche, le prince Vorotinsky se lance à leur poursuite, animé par l'image de la vieille cité profanée. Il fonce sur les arrières de l'ennemi, parvient à le rejoindre et lui livre un combat meurtrier. L'armée du Khan s'élève à 120 000 hommes. Celle de Vorotinsky est inférieure en nombre, mais elle se bat avec l'énergie du désespoir. À la nuit tombante, sur les 120 000 combattants tatars, il n'en reste qu'une vingtaine de mille. Devlet Giray doit battre en retraite, abandonnant aux Russes ses tentes, ses arcs et son propre drapeau. Cette victoire inespérée confirme Astrakhan et Kazan dans leur destin de ville russe et assoit la domination moscovite sur la Crimée. Pour célébrer la marche victorieuse contre les infidèles, on fait sonner les cloches et chanter des Te Deum jour et nuit pendant une semaine.
Sur beaucoup d'églises orthodoxes russes, on peut voir une croix surmontant, même empalant, un croissant renversé. C'est un symbole de la victoire sur les Tatars, Tatars qui étaient et qui sont musulmans. Je pense que la religion a davantage servi de prétexte aux guerres qu'elle n'en a été le véritable moteur. Aujourd'hui, dans le contexte international que l'on connaît, les Tatars de Crimée ont des liens privilégiés avec la Turquie, où on sait que se développe un certain intégrisme musulman, dont le pouvoir actuel est porteur. Et on peut surtout craindre, c'est ma crainte personnellement, que les Tatars de Crimée, population de langue turque, de religion musulmane et de situation économique, politique et sociale absolument misérable, ne soient poussés par cette situation vers une radicalisation. On n'en est pas là du tout, mais on peut craindre que des groupes minoritaires n'apparaissent et on peut même craindre qu'à un moment donné, le pouvoir russe ne trouve avantage à mettre l'accent sur l'existence de ces mouvements pour pouvoir frapper l'ensemble de la communauté tatare au motif qu'elle serait gangrenée par cet islamisme. On se souvient de ce qui s'est passé en Tchétchénie il y a quelques années. Pour l'instant, en tout cas, on n'en a pas de signes prononcés, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil.
Jusqu'où ira la Russie ? La question est posée après la prise de contrôle de la Crimée par l'armée russe, car c'est désormais une réalité. Plusieurs points stratégiques de la péninsule ukrainienne sont aujourd'hui contrôlés par des militaires venus de Russie. Vladimir Poutine, dont la cote de popularité est en hausse, est bien décidé à acter tout cela au plus vite. Le président russe vient de prendre la parole au Kremlin devant les membres des deux chambres du Parlement et les gouverneurs. Pour lui, c'est quasiment une anomalie de l'histoire qui vient d'être corrigée. On l'écoute.
La Crimée a toujours été et reste, en toute âme et conscience, de tous, une partie de la Russie. La Crimée, c'est une alliance sans pareil, une alliance culturelle et traditionnelle de différents peuples. Et c'est pour cela qu'aucune ethnie ne s'est jamais diluée, n'a jamais disparu au sein de ce territoire. Les Tatars de Crimée, les Russes, les Ukrainiens ont toujours vécu et travaillé ensemble sur ce territoire, tout en préservant leur langue, leur foi et leur identité.
Moi, je crois en Vladimir Poutine. C'est un mec cool. Je pense que c'est un politique puissant.
Le dernier acte, c'est donc cette annexion de la Crimée par la Russie qui remet les Tatars dans une situation d'instabilité et d'insécurité très grande, puisque clairement le pouvoir russe s'est attaqué aux Tatars et notamment aux institutions représentatives des Tatars qui ont été interdites tout récemment. Il n'est pas certain que ce soit le dernier mot de cette longue histoire commune. La suite est tout à fait imprévisible. On ne peut pas envisager raisonnablement de retrait russe à court terme. Il est possible qu'un jour la Russie avec d'autres dirigeants, ressentent le besoin d'une normalisation, d'un rééquilibrage, ou voient son avantage, une cession de la Crimée, ou éventuellement un statut de condominium avec l'Ukraine, ou d'État indépendant. On peut imaginer diverses formules qui permettraient à une future Russie de sauver la face, tout en sortant de cette situation qui est considérée comme illégale par l'immense majorité des États du monde aujourd'hui. Il est évident que cette occupation et cette annexion de la Crimée s'inscrivent aussi dans un projet géopolitique plus ambitieux, qui est un contrôle de toute ou partie de l'Ukraine actuelle. C'est ce fameux projet de la nouvelle Russie. Je suis persuadé, même si cela nous éloigne un peu des Tatars, que le fond idéologique du conflit ukraino-russe actuel, c'est l'incapacité ou le refus des Russes, en tout cas de la classe politique russe, à reconnaître tout simplement l'existence d'une Ukraine. C'est ce que Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises en disant qu'il n'y avait pas d'Ukraine, que les Ukrainiens et les Russes étaient un même peuple, et ainsi de suite. Ça conduit nécessairement à des tentatives de récupération de ces territoires dont l'indépendance est ressentie comme anormale. Dans le cas de la Crimée, il est clair que M. Poutine a tout simplement chaussé les bottes des pouvoirs russes et soviétiques précédents et qu'il considère probablement que cette annexion de la Crimée à la Russie est quelque chose d'absolument naturel. Il faut d'ailleurs savoir qu'une partie de ces Russes qui ont accueilli avec tant d'enthousiasme les fameux petits hommes verts il y a 2 ans commencent à déchanter sérieusement parce que, bien entendu, le régime russe n'est pas ce régime très libéral et quasi-anarchique qui existait à l'époque ukrainienne. Il y a une anecdote tout à fait révélatrice qui date d'il y a 2 ans. Des Russes de Crimée avaient voulu organiser une manifestation de remerciement après l'annexion à la Russie. Et cette manifestation a été, dans un premier temps, interdite par le nouveau pouvoir russe au motif qu'une manifestation ne s'organisait pas comme ça de façon spontanée. Donc je pense que les Russes de Crimée, sans parler des Ukrainiens de Crimée et des Tatars de Crimée, sont passés dans un univers politique malheureusement pour eux, très différent.
Merci à Yaroslav Lebedinsky, historien spécialiste du Caucase et enseignant à l'INALCO. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les peuples nomades des steppes et notamment de la Crimée des taureaux tatars, édité en 2009 par l'Harmattan. Merci également à Mohamed Rouabi pour ses lectures librement inspirées de l'invasion tatare dans la littérature russe du Moyen-Âge de Louis Léger, de Par le fer et par le feu de Henrik Sienkiewicz et de Ivan le Terrible d'Henri Troya. Un immense merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission. Julie Briand, Flora Isidore, Charlotte Roux, Anne-Laure Chanel et aujourd'hui à la technique, Pascal Bénard et Pierre Mine. Merci également à Linda Simon de l'INA et à Michael Simon de la discothèque de Radio France. Il est temps maintenant pour les hommes aux semelles de vent de vous demander la route, car dès demain, vous retrouverez vos émissions habituelles sur France Culture. Alors du fond du cœur, merci pour vos messages d'encouragement. Je vous rappelle que l'émission reste écoutable sur franceculture.fr et qu'il n'y a pas de limite pour laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Très belle rentrée à l'écoute de France Culture. Вяночки крутила, вяночки крутила. Весна, где бывала, весна, где бывала.